On s'en va dans Matthieu 16, on va lire les 12 premiers versets, ça va être notre texte, et on entame ce chapitre, qui est un chapitre charnière. Pourquoi? Parce qu'il y a un point tournant important. On ne le regarde pas dans le message d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on considère le début du chapitre, mais dans le milieu du chapitre, là, il y a des choses très, très importantes qui se passent. En fait, je crois que chronologiquement, le chapitre 16 se situe environ à la moitié du ministère terrestre de Jésus. C'est à peu près le point de mi-parcours où est-ce qu'il donne il résume une leçon puis il en donne une nouvelle. On voit ça à partir de la semaine prochaine, mais c'est un chapitre bien important où est-ce que Jésus, avec ses disciples, leur révèle des nouvelles choses et donc c'est ça. Puis après ça, il y a la transfiguration, donc c'est ça. Les choses commencent à vraiment, les Anglais disent, des pick-up speed. Les choses avancent et prennent de l'ampleur. Mais là, ici, on a Jésus qui, comme à plusieurs reprises, est face au leadership spirituel d'Israël. Et ça va pas très bien d'habitude. Pas pour Jésus, pour eux autres. Donc, on va lire les versets 1 à 12. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver et lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage, aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle, et il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. » Les disciples, en passant sur l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, « Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus l'ayant su, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous pas les 5 pains des 5 000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4 000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportées? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Verset 12. « Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. » Alors, on va parler aujourd'hui, à cet après-midi, de la tromperie des raisonnements humains. Et le verset central, il est central physiquement, puis de façon figurée aussi, c'est le verset 8. Hein, Jésus, ayant su comment ils raisonnaient en eux-mêmes, il dit « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi? » C'est le raisonnement humain, ce n'était pas la pensée de la foi. Et donc, Jésus ici, évidemment, il s'adresse à ses disciples, et c'est suite, par contre, au faux raisonnement que les pharisiens et les sadducéens avaient eu concernant Jésus. Au verset 1, ils disent, les pharisiens et les sadducéens, pour l'éprouver, ils lui demandent un signe venant du ciel. Lorsqu'ils demandaient comme ça un signe, là, il y a différents, tu sais, pour miracle, signe, il y a différents mots dans la langue originale grecque. Ici, l'idée de signe, c'est quelque chose de spectaculaire, de vraiment, là, comme de proportion astronomique, là, kaboum, là, tu sais, montre-nous une explosion dans le ciel, OK? C'était le genre d'idée qu'il y avait quand il disait, montre-nous un signe venant du ciel, OK? C'était pas juste comme guérir un lépreux, tu sais, montre-nous quelque chose, là, de vraiment, là, tape à l'œil, on dirait. Et c'est pertinent de comprendre que ces gens-là, à l'époque, étaient divisés en deux groupes, les sadducéens et les pharisiens. Les sadducéens, c'était les rationalistes. Eux autres, ils ne croyaient pas au surnaturel. Ils disent, si on n'a pas une explication rationnelle, on ne le croit pas. Les pharisiens, au contraire, eux autres, croyaient aux anges. Puis ça, c'est pour ça qu'à un moment donné, Paul est devant le Sanhédrin, puis il savait que le Sanhédrin était composé des deux groupes. Puis là, il parle de la résurrection. Là, les sadducéens sont tous emportés, puis les pharisiens disent, ben, peut-être qu'un ange y a parlé, puis ça, parce que les pharisiens, eux autres, croyaient au surnaturel. OK? Donc, ces deux groupes-là, il y avait vraiment deux groupes qui, dans le même leadership, étaient opposés dans leur compréhension des choses spirituelles. Et pour nous, on pourrait dire comme les libéraux qui ne croient pas, mettons, à la création en six jours, que la Bible est inspirée de Dieu, versus des traditionnalistes, là, des bons baptistes indépendants qui croient ça, mais qui sont traditionnalistes, qui peuvent être pris là-dedans. OK? On pourrait. Mais c'est un peu boiteux comme comparaison, mais on pourrait dire à peu près ça. Mais là, ici, l'idée, ce qui est impliqué, c'est si tu nous donnes une preuve suffisante, on va croire. C'est ça qui est sous-entendu. OK? Montre-nous un miracle qui va susciter la foi. OK? Mais pourtant, c'est des incrédules qui lui demandent ça. Ils lui demandent ça pour l'éprouver dans leur incrédulité. Et Jésus leur dit, vous parlez du ciel physique qu'on voit au-dessus, puis vous comprenez la réalité physique. C'est-à-dire, vous savez que quand il y a un tel ton, OK, il va pleuvoir ou il va faire beau, vous êtes capable de distinguer ça, mais vous n'êtes pas capable de distinguer les temps, la réalité spirituelle dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire, vous êtes dans le temps de la venue du Messie, puis vous êtes pas capable, vous comprenez pas ça, vous êtes capable de voir le physique, mais vous ne comprenez pas le spirituel. OK? C'est ça la réponse de Jésus en essence. Et quand on comprend ça aussi et qu'on compare à ce que Jésus a dit dans le chapitre 12, verset 39, Jésus a dit dans 12:39 aux pharisiens qui lui avaient parlé, il dit « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il répondit, verset 39, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. » Et regardez ce qu'il répond, « Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Ça fait deux fois que Jésus répond ça. Et il avait répondu ça lorsque les pharisiens étaient seuls à lui demander. Puis là, quand l'autre groupe est là, les sadduciens, ils donnent la même réponse. Qu'est-ce que Jésus fait? Ils veulent un miracle, Jésus les ramène aux Écritures. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce qu'ils pouvaient voir de Jésus, ils devaient y ajouter foi. Ce qu'ils pouvaient connaître des Écritures, ils devaient y ajouter foi. Même s'ils voyaient un miracle venant du ciel, s'ils ne croyaient pas à ce que Dieu leur montrait là, ils n'auraient pas cru plus tard. Okay? Il y a un principe fondamental là-dedans. Ça nous dit dans Hébreux, chapitre 4, verset 2, « Cette bonne nouvelle a été annoncée aussi bien, nous a été annoncé aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fait annoncer ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas foi chez ceux qui l'entendirent. » Ici, ça réfère aux événements dans le désert et tout ça, ceux qui avaient erré dans le désert, dans le temps de Moïse. Ils ont entendu la parole de Dieu, il y avait la promesse de la terre promise, mais ça ne leur a rien servi. Ils ont poireté 40 ans dans le désert, ils sont tous morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru, ils n'ont pas mélangé avec leur foi ce que Dieu leur avait dit. Puis pourtant, est-ce que Dieu avait fait des choses extraordinaires, des signes venant du ciel? Hey, en Égypte, là, on parle, là, tu sais, ça nous dit l'expression que Dieu les a fait sortir à main levée, là. Il y a eu des grands miracles. Donc, voyez-vous, parce qu'ils n'ont pas cru à ce que Dieu leur avait dit, la parole, c'est ça qu'on doit croire. Puis juste une autre petite comparaison avec Matthieu 21:21. Ah, les Écritures s'expliquent par les Écritures. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. » Autrement dit, par la foi, on peut voir des choses extraordinaires. Eux autres, ils voulaient des choses extraordinaires sans la foi, tandis que c'est par la foi qu'on voit le Dieu de l'impossible faire ce que juste lui peut faire. OK? C'est par la foi qu'on voit que Dieu peut sauver le cœur le plus endurci. C'est par la foi qu'on voit que Dieu peut nous donner la paix dans la circonstance la plus troublante. OK? On ne peut pas demander à Dieu de faire ça sans croire. C'est par la foi qu'on va le voir. OK? On ne veut pas voir pour croire, mais à cause qu'on croit, on voit. Et là, ici, le leadership d'Israël, hein, avec les deux, comme je disais, les deux groupes qui sont représentés ici, voulait ce miracle gigantesque. Jésus leur a refusé, mais il les ramène aux Écritures pour leur répondre, dans le fond, que le problème, c'est qu'ils se trompent eux-mêmes. Ils pensent que s'il y avait du abracadabra, du extraordinaire, ils croiraient, alors que ils se trompaient eux-mêmes. Tout ce qu'il y avait, c'était de croire ce que Dieu avait déjà révélé. Donc, on est dans les raisonnements humains. On voit trois types de raisonnements trompeurs. D'abord, dans les versets 1 à 4 qu'on a lus, on a les gens qui sont là, qui sont non régénérés, donc la tromperie des raisonnements irrégénérés, non régénérés. On l'a dit, ils ont dit, on veut un miracle venant du ciel. Et ça ici, c'est à comprendre, eux autres, ces gens-là, là, ce leadership religieux de l'époque, faisaient un contraste entre les miracles venant du ciel versus ceux venant de la terre. C'est-à-dire que les pharisiens, en particulier, faisaient une distinction, parce qu'eux autres, ils croyaient au surnaturel, ok, contrairement aux sadducéens, mais les pharisiens faisaient une distinction entre les signes de la terre, okay, qui viennent d'ici sur terre, ok, qui disaient pouvoir venir des démons. C'est pour ça qu'ils ont dit à Jésus, ce que tu fais, c'est par Belzébul, le prince des démons. Ils disaient, oh, ça, c'est des choses qu'on voit, tu sais, guérissait quelqu'un, là, là, là. Ils disaient, tu sais, ça, c'est terrestre. Fait que là, en disant du ciel, ça, c'était comme le signe incontesté que ça venait de Dieu. C'était ça leur raisonnement. C'est pour ça qu'ils disent, OK, on a vu des choses que tu as faites sur la terre, mais ça, ça peut être des démons qui font ça. Mais là, si tu nous montres du ciel, patapaf, là, ça va nous donner une preuve hors de tout doute que ça vient de Dieu. C'était ça leur raisonnement quand ils disent venant du ciel. OK? Certains vont dire, bon, il y a une certaine logique à ça. D'autres vont dire, non, c'est complètement farfelu. Mais le point majeur, c'est à comprendre ici, la source corrompue, c'est le cœur humain. C'est la pensée humaine. Ça n'a pas rapport, dans le fond, de dire du ciel, la terre. Mais dire, si c'est de Dieu, c'est de Dieu. Qu'on voit ça ici sur terre, est-ce que Dieu peut faire quelque chose qu'on voit ici sur terre ou il peut faire quelque chose qu'on voit dans le ciel? L'idée, c'est que leur raisonnement était humain. C'est pour ça que Jésus les ramène aux Écritures. Parce que dans les Écritures, c'est là qu'on peut tout comprendre ce qu'il y en est, puis qu'on peut discerner qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui n'est pas de Dieu. Parce que dans les Écritures, on voit, avec par exemple, le prophète Jonas, Dieu a fait un miracle, il l'a préservé, puis tout ça. Ça venait de la terre, il y a eu, mais aussi, il y a quelque chose qui est venu du ciel dans le livre de Jonas. Une ville de... c'est 40 000, je ne me rappelle plus le nom de... En tout cas, des gens, là, en très grande quantité, qui se sont repentis. Ça, c'est un miracle venant du ciel, OK? C'est peut-être pas... il n'y a pas un éclair qui est tombé sur Ninive, à ce qu'on sache, mais ils se sont repentis. Donc, dans les Écritures, il y avait le signe qui vient de... tu sais, le grand poisson, mais il y avait aussi celui du ciel, OK? Donc, il les ramène aux Écritures. Et ça, c'est important à comprendre. Pourquoi? Parce que même les plus grands miracles ne génèrent pas la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vous donne juste quelques petites références à ce sujet-là. Dans 1 Pierre 1:23, vous connaissez, « Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Donc, c'est la parole de Dieu qui... régénère aussi le Saint-Esprit, hein, c'est lui qui convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et écoutez aussi, ça c'est tellement complet, 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole, okay, la parole que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais comme elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. OK, donc, ça c'est vraiment, on voit la puissance de la parole de Dieu. Maintenant, le problème, c'est que ces gens-là n'interprétaient pas la parole de la bonne manière. Pourquoi? Parce qu'ils étaient endurcis par leur cœur incrédule. Ils ne voulaient pas voir le Christ des Écritures qui était là devant eux autres. Jésus était l'accomplissement des Écritures. Tout était accompli en lui. Il était sous le jugement, comme dans Romains 1, il était livré à leur sens réprouvé. Vous savez qu'on a quelque chose d'eschatologique dans ce moment qui arrive. La parole nous enseigne que l'enlèvement de l'Église, on parlait de ça tantôt, va déclencher une série d'événements qui vont mener à la révélation, l'apparition de l'homme impie, l'homme d'iniquité, l'antéchrist. Il y a toutes sortes de noms qui sont donnés dans la parole de Dieu pour cette personne-là, qui va prendre sa crédibilité, la Bible nous dit dans Thessaloniciens, de prodiges mensongers. OK? Mais ça a une valeur limitée, mais ces prodiges mensongers qui vont faire, ça, on voit qu'il y a une valeur limitée à ces miracles. Pourquoi? Parce que les humains qui vont le voir, ils ne vont pas reconnaître la source, ils ne vont pas voir que ça vient de Satan, ils vont attribuer ça à Dieu. C'est là qu'on voit la tromperie des raisonnements non régénérés. Ils vont voir le faux devant eux qui fait des miracles, mais ça va-tu les amener à la foi biblique puis à la foi en Jésus-Christ? Non. Fait qu'on voit la valeur limitée, même si on a des miracles, ça ne veut pas dire qu'on va nous conduire à la foi dans l'œuvre parfaite de Christ. Parce que l'Antéchrist va en faire des miracles, puis ça ne va pas amener les gens à être sauvés. Au contraire, c'est une puissance d'égarement, c'est un jugement contre eux. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que ces gens-là, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, c'est un jugement à cause de leur incrédulité. Dieu leur envoie toutes sortes de choses pour les laisser aller à leur folie. C'est un jugement. Maintenant, face à ces raisonnements irrégénérés, cette tromperie des raisonnements irrégénérés, on comprend qu'on n'a pas tant besoin de miracles, parce qu'on sait, Moïse, Élie, Élisée, c'était des prophètes à miracles. Hein? Est-ce que les gens qu'ils ont suivis en grande partie ont mis leur foi en l'Éternel? Non, la majorité, non. Du temps de Moïse, hein, la majorité a passé le temps dans le désert, même s'il avait tout vu ça. Élisée et Élie, c'était des prophètes à miracles, mais Israël rejetait l'Éternel en bloc à cette époque-là. Donc, ça nous montre que même les plus grands miracles, c'est insuffisant pour produire la foi, puis même peut-être plus proche de nous. L'apologétique, c'est-à-dire la défense de la foi, montrer comment logiquement il y a des raisons logiques pour croire en Dieu et tout ça. Ça aussi, ça a une limite. Malgré, je pense que c'est supérieur dans le sens que beaucoup, ça doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Mais c'est jamais un substitut pour l'Évangile. L'Évangile, la Bible nous dit, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour le Juif, premièrement, puis du Grec. Parce qu'en lui, en l'Évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et donc, c'est ça, il faut toujours ramener à la parole ces gens irrégénérés. Le seul espoir qu'ils ont, c'est d'être confrontés à ce que Dieu dit sur eux, sur lui-même, puis comment il a révélé en Jésus-Christ la seule façon d'être réconcilié avec lui. Et donc, des fois, on pense à notre témoignage, puis on parle à des gens, puis tout ça. Si on veut que les gens voient la puissance de Dieu, tu sais, on se dit, c'est pas important, n'est-ce pas? Jésus a fait des miracles, puis tout ça. OK, oui. Jésus, voici, je vais vous donner deux passages. Une fois qu'on a donné la parole de Dieu, qu'est-ce que les gens peuvent voir qui peut les convaincre en plus de ça? Jésus a dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, c'est pas ça qui va les sauver, mais ça va voir, oh, la parole agit dans leur vie. Cette parole vivante, je la vois à l'œuvre. Donc, ça va assaisonner, une fois que la semence de l'Évangile est plantée, ça va arroser, OK? C'est pas un substitut, mais ça va aller dans ce sens-là. Puis de la même façon aussi, d'un point de vue peut-être plus personnel, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Une vie transformée, ça montre, mais plus pareil, cette personne-là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est ça, c'est la semence incorruptible, la parole qui a transformé sa vie. OK? Mais évidemment, il faut que la personne s'y confie, le croit pour elle-même, ou comme je l'ai cité tantôt, il faut qu'elle ajoute sa propre foi à ce qu'elle entend. Je vous donne un passage par rapport à ça dans 1 Corinthiens. C'est-tu 1 Corinthiens? 2 Corinthiens? Hein, je suis tout mêlé. OK, ouais. 2 Corinthiens chapitre 4. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car que je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'étais moi-même auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc ça nous donne vraiment des grandes lignes directrices par rapport à la tromperie des pensées humaines. Ce qui va contrecarrer ça, c'est la parole de Dieu et le fruit de cette parole dans la vie de ses enfants. Maintenant, par rapport à la tromperie qu'on voit dans les versets suivants, dans les versets 5 à 11, après avoir vu la tromperie des pensées irrégénérées, on voit la tromperie des pensées incrédules. Et là, on parle des enfants de Dieu, mais il y avait de l'incrédulité. Hein? Jésus leur a dit, hein? Au verset 8, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même? » Jean, de peu de foi, il raisonnait selon la logique humaine. Et Jésus vraiment met le doigt, ici, au verset 8, sur un grand ennemi de la foi. « Si je veux marcher par la foi, me confier en Dieu, il faut que ces raisonnements-là soient amenés captifs à l'obéissance de Christ. » La foi, ça n'a pas tout le temps du bon sens humainement. En fait, c'est bien rare. C'est-à-dire, demander à Noé, qu'alors qu'il n'avait jamais vu de pluie sur terre, peut-être qu'il y avait une espèce de rosée, les gens disaient, je veux dire, il y avait de l'hydratation, mais il n'avait jamais vu, tu sais, une pluie de même, construire une arche parce qu'il va y avoir tellement d'eau que tu vas avoir besoin d'un bateau. Je veux dire, ça ne vaut aucun bon sens faire ça. Ou conquérir une ville avec, comme motus operandi, de juste faire le tour de la ville de même. Il a dit, non, t'as pas besoin qu'on ait des béliers pour défoncer la porte. Non, non, juste. Puis, c'était pas logique. Abraham, tu t'en vas dans un pays que je vais te montrer. Lui, Abraham, là, il avait plus que juste sa petite valise. Là. On sait que c'est un homme très riche, puis il avait ses troupeaux, puis là, tu sais, c'était tout qu'un. C'est une caravane qui partait, là. Qui partait où? Tu sais, t'en vas où, Abraham? Je sais pas. Dieu va me le montrer. C'est quand même. Ça n'a pas de bon sens, là, tu sais, quand. Malgré que des fois j'aurais le goût de faire ça, ces temps-ci, là, on n'a plus le droit d'aller nulle part, mais je vais aller juste nulle part au moins prendre un peu, me changer les idées, mais bon. On aurait commencé ça, les voyages Abraham, juste un voyage pour se changer les idées. Je trouve que ça marcherait dans les temps dans lesquels nous vivons. Donc les raisonnements humains, ça bloque, ça court-circuite la marche par la foi, parce que quand Dieu nous demande de faire quelque chose, il ne demande pas de tout comprendre, il demande juste de le croire, de lui faire confiance. Quand le Saint-Esprit nous amène à nous confier dans ce que Dieu dit, il ne nous demande pas notre avis, puis il ne nous demande pas si ça a du bon sens pour nous, il nous demande juste d'y faire confiance. Il révèle où est notre confiance. Et si mon attention est sur Jésus, ça ne sera pas un problème, mais si mon attention est sur mille et une choses, je vais me trouver mille et une façons que ça n'a pas de bon sens. Mais si mon attention est sur Dieu, tu le dis, OK, ben, ça veut dire qu'il faut que je le fasse, c'est pas plus compliqué. Comprenez-vous? Voyez-vous comment c'est important notre focus, comme on le disait ce matin? Et donc, il ne faut pas remplacer la simple obéissance par mille et une justifications des raisonnements humains pourquoi ça n'a pas de bon sens de faire ça ou de faire ci puis de faire ça. Mais encore plus, au verset 11, on peut lire aussi « Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Ici, on voit que cette pensée incrédule nous empêche de comprendre les vérités, les leçons spirituelles que le Seigneur veut nous enseigner. Que le Saint-Esprit veut nous enseigner. Quand on lit la parole, le Saint-Esprit veut nous montrer des choses dans sa parole. Et si on n'y ajoute pas foi, on s'obscurcit l'intelligence. On voile notre compréhension. Et ça nous empêche de marcher dans la simplicité de la foi, marcher par l'esprit. Parce que pensez-y. Vous savez que la vie chrétienne, c'est simple. Il y a quelque chose de très... Non, mais pensez, c'est simple. Dans sa grâce, le Seigneur fait des affaires dans notre vie. Puis il nous demande juste d'embarquer là-dedans. C'est-tu compliqué, ça? Dieu dit, gars, je suis en train de faire de quoi? T'embarques-tu? Ah, mais là, Seigneur, ça n'a pas de bon sens, t'as-tu vu? Hey, t'as-tu... C'est là que... Mais sinon, c'est pas compliqué. Dieu fait quelque chose. Dieu nous montre des choses, puis il dit, me fais-tu confiance pour embarquer là-dedans? Tu sais, on dit, OK, je sais pas, moi... Mais gars, on parlait des églises, puis tout ça. Bon, on dit, Dieu nous dirige. On va faire confiance à Dieu. On fait l'église comme ça, les dimanches. Puis, on s'en remet à Dieu pour ça. Ben, Dieu récompense ça. Dieu, on voit ce qu'il fait avec ça. C'est simple, dans le fond. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui travaille. Puis, on pourrait mettre ça pour mille et une autres choses dans notre vie. Là où c'est plus compliqué, c'est lorsque ça rencontre la résistance dans nos cœurs. Et je parlais avec quelqu'un cette semaine. Tu sais, des fois, on est tous disposés, « Seigneur, je veux faire ta volonté. » Mais quand il nous le montre, « Ah, ben là... » Ça, c'est pas dans ma zone de confort. Quoi va faire que je laisse cette situation, cette position, ce confort, que je laisse ça, puis je sais même pas où ça va me mener? C'est insécurisant. Donc, c'est ça. C'est simple. Mais, je veux dire, il faut qu'on fasse vraiment confiance à Dieu. OK? Donc, c'est simple, mais il faut... qu'on se repose dans la sagesse de Dieu. Il ne faut pas qu'on complique les choses en essayant de tout comprendre, en essayant de faire du sens Il faut qu'on rentre par la foi dans ce que Dieu est en train de faire. Parce qu'on ne veut pas que le Seigneur nous dise, comme il a dit à eux, « gens de peu de foi ». Donc, toute la grâce est là. On la prend, on la vit, on la reçoit par la foi. Vous savez, j'ai partagé, je te dis que je vais le partager, Maxime, aussi, la semaine passée, j'ai partagé comment je voyais un peu la situation dans laquelle on vit. Tu sais, moi, je pense qu'on est dans une crise politique en ce moment, plus qu'autre chose, là. C'est une crise sociale. Et en essence, ce que j'ai voulu communiquer dans le courriel que j'ai envoyé avec la LEP, là, ça me passe à peu près 6 pages, là, c'est quand même assez long, c'est que faut qu'on fasse attention au raisonnement incrédule. Il y a une façon qu'on peut vivre les choses qu'on vit en se trouvant des bonnes raisons pour faire ce qu'on veut, puis mettre ça sur le voile de l'obéissance, mais dans le fond, c'est pour voiler la peur ou le conformisme. Pensez que c'est plus facile de se conformer pour ne pas avoir de problème. OK? Parce que la réalité des choses en ce moment, puis c'est pas d'hier, on est dans une guerre spirituelle. Là, elle fait juste s'intensifier, puis elle vient nous... Elle cogne à la porte, là, puis c'est comme... Elle a toujours été là, mais là, elle s'introduit dans nos vies. C'est là la différence. On est dans une nouvelle étape de cette guerre spirituelle. Et je lisais cette semaine dans Jérémie, hein, « Si tu as de la misère avec ceux qui marchent, qu'est-ce que tu vas faire avec ceux qui courent? Puis si dans les plaines paisibles, déjà c'est dur pour toi, qu'est-ce que tu vas faire sur les rives orgueilleuses du Jourdain? » C'est-à-dire que Dieu nous a préparé avant, ça fait longtemps que la guerre spirituelle est là, mais est-ce qu'on était habitué de marcher par nos raisonnements? Parce que là, maintenant que c'est réel la menace, puis qu'il y a vraiment... les dangers de la guerre spirituelle nous atteignent, là, c'est rendu pas mal plus. Est-ce que vraiment je vais me confier en Dieu? Est-ce que je vais céder à la tentation de trouver une solution, de me compromettre, de céder à ma foi? Et mes amis, je pense que c'est ce qui est arrivé ici, verset 8, verset 11, c'était des vérités spirituelles qu'ils ne voyaient pas. Ils raisonnaient en eux-mêmes. « Ah, OK, on n'a pas amené de pain. » Ils ne raisonnaient pas par la foi. Jésus voulait les amener à comprendre des choses spirituelles. Et pour nous, on peut tomber dans le piège de ne pas voir la situation de spirituel qui nous arrive. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est dans une guerre spirituelle. Puis le plus grand danger, ce n'est pas un virus. Le plus grand danger, c'est que les gens veulent se sauver eux-mêmes. C'est que beaucoup se détournent de la foi. C'est que beaucoup... sont perdus, ils s'en vont en enfer puis ils ont besoin de l'évangile. C'est ça le plus grand danger. Je suis d'accord qu'on doit faire attention à nos vies, mais je veux dire, le plus grand danger qui devrait tellement nous inquiéter le plus, c'est que les gens meurent sans Christ puis ils s'en vont dans une éternité sans lui. C'est bien plus grave qu'un virus, là, parce que quand on pogne le virus puis qu'il est sauvé, c'est son corps, puis c'est pas la chose la plus grave qui va y arriver. Comment l'Église de Jésus-Christ, on est arrivé avec les raisonnements de l'incrédulité à mettre plus d'importance sur le physique que sur la condition spirituelle de nos églises puis de notre prochain qui est sans Christ autour de nous? C'est grave, on est tombé dans le piège, dans la tromperie des raisonnements incrédules. On ne voit pas comme Christ, parce que comme si Christ, il nous parle du levain des pharisiens puis nous on parle de pain. On parle complètement d'autre chose. Christ nous parle des armes éternelles, nous parle de nos frères et sœurs, du corps de Christ, de la vie dans son Église. Puis nous, on est là, on parle de choses physiques. C'est vraiment la vraie situation qui arrive en ce moment. Il y a un parallèle entre les deux qui est très clair. Et je pense qu'on raisonne comme eux. En tout cas, c'est notre tendance. Le monde court à sa perte et vit selon le mensonge. Je l'ai dit, la grande conspiration n'a pas commencé en 2020, a commencé après, direct après la chute dans le Jardin d'Éden, c'est qu'on peut se sauver nous-mêmes. C'est la grande conspiration de tous les siècles, qu'on n'a pas besoin de Dieu pour se sauver, qu'on peut se sauver nous-mêmes. Mettez ça sur toutes les formes que vous voulez, religieuses, philosophiques, n'importe quoi, c'est ça la grande conspiration. On va être Dieu, puis on va se sauver nous-mêmes. C'est ça qui nous menace en ce moment. Que ce soit tout en prenant un vaccin ou en mettant tout ça par-dessus bord puis qu'on se met à suivre un leader qui sauve le monde, je veux dire, c'est le même problème. ça mène absolument à rien. C'est vivre le mensonge qu'on peut se sauver nous-mêmes. C'est un affront à Christ et Christ lui-même. Et c'est quand même assez hallucinant, déroutant, décourageant. Je pense que c'est à peu près ça que je vivais hier. Comment dire, le monde, ça a sorti aussi dans la prière ce matin. Le monde est rendu fou, est rendu loin là-dedans. Là, je veux dire, bon, on n'a jamais vécu sous Pol Pot, Mao, Hitler. Mais en tout cas, on voit quand même c'est quoi la folie de ce qui arrive. Mais attention, le peuple de Dieu, les chrétiens, si nous, on ne connaît pas les vraies choses qui se passent, si nous, on n'est pas capable de voir au-delà de la mêlée, de voir au-delà, dire le monde est sans espoir. Parce qu'on est tout aussi trompé que les autres. Il y a la tromperie des raisonnements irrégénérés, ça c'est le monde. Mais si nous, on est trompé par les raisonnements de l'incrédulité, il n'y a plus d'espoir. Parce qu'il n'y a pas de foi en Christ. C'est le seul qui est vraiment important et qui fait la différence. Ça m'amène au troisième point, la tromperie des raisonnements face à l'invisible. Irrégénéré, incrédule, invisible. Regardez au verset 12. « Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. » Donc ça nous dit au verset 12 au début, « Alors ils comprirent, après Jésus leur a expliqué, ils ont vu l'invisible. Au lieu de voir juste du pain qui était demain, ils voyaient, ah, il y a un enseignement qui a un pouvoir spirituel sur la vie des gens, qui peut les asservir, qui peut les garder de venir à celui qui est le pain venu du ciel, qui peut les garder de venir pour être libérés du joug de la religion. Là, ils ont vu l'invisible. C'est avec les yeux de la foi qu'ils ont vu ça. D'ailleurs, c'est là que Jésus les amenait tout le long. Et cette vision spirituelle, c'était Jésus qui voulait les amener à voir quelque chose sur eux-mêmes. Ces gens-là amènent un enseignement, puis tout ça, ils passent à côté de moi. Moi, je suis le vrai pain. Moi, je suis le pain sans levain. Je suis votre Pâque. Je suis celui qui est venu du ciel. Je veux dire, tout ça, ça nous amenait à lui qui est le vrai, l'authentique. Et Jésus fait toujours ça. Dieu, le Saint-Esprit, nous ouvre toujours les yeux sur les richesses incompréhensibles qu'on a en Christ. Et c'est là qu'est notre salut, notre délivrance, notre liberté. Et les raisonnements humains obscurcissent notre intelligence, comme je l'ai dit tantôt. Et pour ça, ça requiert l'intervention de Dieu pour nous ouvrir les yeux. Ici, Dieu est intervenu, puis « Ah, là, ils ont vu. » Savez-vous qu'on ne peut pas faire ça nous-mêmes? Savez-vous qu'on va s'évertuer, on va se décourager, on va décourager les autres, on risque de mettre l'animosité si on essaye d'ouvrir les yeux de quelqu'un. C'est comme si j'essaye de sauver quelqu'un. Là, je parle autant de sauver, non sauver. Je ne peux pas sauver quelqu'un. Je peux partager l'Évangile, je peux laisser Christ manifester sa vie dans ma vie, puis tout ça, c'est tout bon. Mais au bout du compte, celui qui ouvre les yeux, c'est Dieu. Savez-vous que c'est pareil aussi pour les chrétiens? Des fois, on dit, ah, les chrétiens, comment ils ne comprennent pas eux autres? Prions que Dieu ouvre les yeux. Et je veux mettre précisément le point par rapport à ce qu'on parle depuis quelques semaines. Il y a une simplicité incroyable dans le fait que on peut vivre à la lumière de l'œuvre parfaite de Christ. Je veux dire, c'est pas compliqué. Christ a tout accompli, je peux me reposer là-dedans. Il est ma victoire. Il est ma délivrance, il est tout ce dont j'ai besoin. Puis ça, tous les chrétiens peuvent dire ça, mais pour le voir, pour voir cette réalité invisible, pour qu'elle m'affecte, puis qu'elle fasse « Wow! » Pas plus tard qu'hier, quelqu'un me disait, quelqu'un que Dieu est en train d'ouvrir les yeux là-dessus, je disais, c'était ma louange tantôt. Puis la personne a dit « C'est libérant. » Puis c'est quoi l'autre mot? C'est beau? C'était quoi? En tout cas, c'était comme, wow. Puis là, tu vois, ah, Dieu ouvre les yeux. Tu sais, quand c'est Dieu, c'est comme pour quelqu'un de sauver. Tu vois, OK, il est arrivé quelque chose, OK? Dieu ouvre les yeux autant pour le salut que pour la sanctification par rapport à l'œuvre parfaite, complète de Christ. Et c'est ça qu'on voit ici avec ce que Jésus faisait avec ses disciples. Jésus se révélait de plus en plus à eux, hein? On voit ça dans les évangiles. Et il se révélait comme étant leur sagesse, leur lumière. Ils ne comprenaient pas, ils étaient un petit peu mêlés et tout ça. Mais Dieu était patient avec eux autres, puis il contrait leur raisonnement incrédule, puis il les amenait à voir ce qui était invisible à l'œil nu, à voir au-delà de ce qui frappe l'œil, à le voir lui. Et on l'a lu ce matin, puis je le relis, et c'est un beau passage dans 2 Corinthiens, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. C'est pour ça qu'on a besoin de s'exposer constamment, on a besoin de la communion fraternelle. Bon, on s'expose personnellement à la parole, quotidiennement, on vient dans la présence de Dieu, hein. On regarde à celui que nos yeux ne peuvent pas voir. Quand on est ensemble, on exerce notre vision spirituelle. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde ensemble à celui qui est notre vie, qui est notre joie, celui qu'on célèbre, on fait ça ensemble, on le fait individuellement. Il faut toujours faire ça parce que c'est ça qui nourrit de notre foi. Jésus est le chef et le consommateur de notre foi. Et pour les choses qu'on est en train de vivre, c'est comme ça que Dieu nous affermit dans la vérité présente. Pour ça que Pierre dit, c'est pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Ah, quand on vient à l'église, c'est rare qu'on apprend quelque chose de complètement nouveau. Mais souvent, Dieu prend une vieille vérité puis il nous donne une nouvelle compréhension. Il allume la lumière sur cette chose-là. Puis, ah, j'avais pas vu ça. C'est là qu'on est affermi dans la vérité présente. Ça dit, c'est pourquoi je vous prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermi dans la vérité présente. C'est à force d'être exposé à ces vérités glorieuses que Dieu nous affermit comme ça. Tantôt, j'ai dit que j'allais y référer. L'épidémie de médicaments, puis ça, je vous dis, c'est pas d'hier, mais il y a une épidémie de médicaments, puis aussi tout le problème de toute la prescription, puis tout ça. Avant, les psychiatres étaient des gens qui prenaient le temps de t'écouter, puis tout ça, puis ils parlaient, puis tout ça. Maintenant, ils écoutent très peu, puis ils ont le crayon facile, où est-ce qu'ils te prescrivent. Puis là, il y a tout un lobby pharmaceutique là-dedans, OK? L'amour de l'argent, puis tout ça. C'est tragique, c'est vraiment tragique, et je pense que ça dépasse de loin les problèmes que les médias voulaient nous faire entendre par rapport à un virus qui est dans le monde physique, parce que ça l'affecte énormément le monde spirituel, la pensée des gens, puis tout ça, c'est tragique. En plus, c'est multiplié, c'est aggravé par les mesures qui sont prises par rapport au virus. Parce que les gens sont plus isolés. Fait que là, il y a encore. Ils l'ont dit en 2020, le nombre de prescriptions, il a décuplé. Ou je ne sais pas les stats exactes, mais ça l'a rempli encore plus de s'acheter de l'huile sur le feu. Tout ça est causé par des raisonnements irrégénérés de quelqu'un qui donne une solution à un problème qui n'est pas Christ, donc qui donne juste du domaine physique. Puis en plus, s'il y a des gens qui se disent de Christ, puis, qui veulent aider de même, mais qui regardent seulement au physique, ils passent à côté. Pourquoi? Parce que le problème fondamental dans notre vie, c'est pas un problème physique qui a besoin d'un réabalancement chimique, c'est un problème spirituel. Puis souvent, ça va se manifester dans le monde physique. Moi, je pense que si je suis tellement inquiété, puis tout ça, je peux en virer fou, je peux en faire des ulcères d'estomac, puis ça a des répercussions, mais la cause est spirituelle. Il faut regarder à ça, puis c'est pas juste en te rendant gelé, stone. C'est comme juste un plaster. Et je l'ai souvent dit, hein, les problèmes physiques visibles sont la simple manifestation de ce qui est spirituel et invisible. Et Dieu veut nous amener à avoir les regards là-dessus, comme ici, avec les disciples. Il faut qu'on voit ça. Pour nous, les chrétiens, il ne faut pas tomber dans le piège des raisonnements humains par rapport à ce qu'on ne voit pas, en fixant nos yeux, en étant distrait par ce qu'on voit, au lieu de regarder à celui qu'on ne voit pas, et qui est le seul espoir du monde et de l'Église de Jésus-Christ. Oh, mes amis, que Dieu nous ouvre les yeux sur celui qui est notre tout en tous, sur Jésus-Christ qui est la réponse à tous les raisonnements humains qu'on pourrait avoir. Et mieux encore, plus vital, que Dieu ouvre nos yeux sur l'objet de notre foi. Hein? Quand Jésus a dit, je vais vous donner pas d'autre signe que le prophète Jonas, savez-vous que l'ultime but, c'était pas de leur parler de Jonas. Jonas est un type de Christ. Quand Jésus a dit, prophète Jonas, parce que Christ allait passer 3 jours et 3 nuits dans la terre, comme Jonas dans le ventre du poisson, donc je vais vous donner le signe de moi. Je vais vous pointer à moi. Jonas était juste un type. Christ était l'antitype, était l'accomplissement. Et donc, l'objet de notre foi, Jésus-Christ, qu'on apprenne à le voir plus précieux que l'or, à le voir dans tous les aspects de notre vie comme étant celui qui est notre rémunération. Vous savez, peut-être que des fois vous priez avant de lire la Bible, Dieu ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Vous connaissez ce passage-là dans Psaume 119-18? Jésus est la grande merveille de la loi. C'est la perle de grand prix. Et donc, je pense qu'on peut se joindre à Paul lorsqu'il priait pour les Éphésiens, qui priait que Dieu illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à leur appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage réservé aux saints. Que Dieu nous ouvre les yeux sur ces choses afin que ça soit notre sécurité, que ça soit notre refuge, que ça soit aussi notre assurance devant lui. Merci Seigneur d'avoir donné dans ta parole ces choses qui sont arrivées pour de vrai, ce sont des faits historiques. Comment tu étais bon, patient et tu avais tout au contrôle avec tes disciples. Merci que tu les as amenés à regarder à ce qu'ils ne pouvaient pas voir de leurs yeux. Merci que tu étais patient du fait que comme nous, ils raisonnaient. Même tu as été patient avec les pharisiens, avec leur raisonnement irrégénéré. Tu voulais les amener à te voir dans les Écritures, toi, celui qui est plus grand que Jonas, celui qui amène la vraie délivrance. Et tu as aussi amené tes disciples à voir toi qui es le pain sans levain, toi qui a un enseignement qui est pur, qui est vrai, qui dit toujours la vérité, Seigneur. Tu ramenais constamment les yeux vers toi. Merci pour ça, Seigneur. Tu fais ça aussi dans nos vies. Seigneur, protège-nous de nos raisonnements. De nos raisonnements incrédules et aussi nos raisonnements face à ce qu'on ne peut pas voir. Seigneur, tu ne nous demandes pas de tout raisonner et de tout expliquer, mais juste de te faire confiance. On veut faire ça, Seigneur, simplement. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Amen. Si vous voulez.